Vous êtes sur le point d'écouter le nouvel épisode du podcast Aventurier Engagé, produit par la Water Family. Dans cet épisode, nous accueillons Mathieu Crépel, ce jeune snowboarder plusieurs fois champion du monde, mais aussi un des premiers ambassadeurs de la Water Family. Dans cet épisode, il nous raconte ses projets, l'histoire de la Water Family et sa vision de l'écologie. Bonne écoute!
Alors la présentation, c'est toujours le moment que je redoute le plus, parce que c'est toujours le plus difficile de s'auto-présenter. Mais je m'appelle Mathieu Crépel, j'ai 38 ans, je suis amoureux de l'eau sous toutes ses formes et ça constitue mon terrain de jeu favori. J'ai commencé d'abord par le snowboard et puis le surf, qui sont mes deux disciplines de prédilection et j'ai fait pas mal d'aventures au fil de l'eau grâce à ces sports-là. Et puis, assez engagé sur la préservation de notre environnement parce que justement, c'est cette nature qui nous offre nos terrains de jeu. Et elle est à la fois, c'est à la fois vital pour continuer à préserver nos passions. Mais c'est vrai que quand on parle de passion et de sport, ça paraît un peu futile, un peu léger quand on est face à l'enjeu environnemental global. Mais je pense que c'est vital aussi de continuer à avoir une approche peut-être un peu plus légère, un peu plus... Enfin, voilà, moi, j'ai grandi avec le surf, le snowboard, et c'est ce qui a créé mon engagement. Donc c'est pour moi naturel de vouloir préserver tout ça, quoi. Pour moi, l'engagement écologique, il s'est construit en fait de différentes manières. C'est que déjà, je pense qu'il vient de principalement deux choses. L'endroit, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France, j'y vis toujours. Et j'ai eu la chance, grâce à mon parcours familial, grâce à mes parents, de vivre la montagne l'hiver et sur la côte l'été, donc au rythme de l'eau et du cycle de l'eau. Et ensuite, parce que justement, mes parents m'ont offert on avait ce rythme familial et on avait cette sensibilité sans vraiment savoir, parce que c'est vrai que l'engagement écologique et les enjeux environnementaux, sauf pour les experts, les scientifiques qui nous alertent depuis un moment, c'est finalement... moi, j'ai 38 ans. Quand j'avais 10 ans, la sensibilité que j'avais à la nature, c'était par rapport à des ressentis, à ce que je sentais en moi, ce que ça me procurait quand j'étais en pleine montagne ou sur la plage en train de surfer. C'était pas conceptualisé et conscientisé comme j'ai envie de m'engager pour préserver tout ça. C'est juste que je savais que quand j'étais dans cet environnement-là, je me sentais bien. C'était aussi simple que ça. Et c'est un peu plus tard qu'on a pris conscience que tout ça, que la montagne, enfin, j'ai commencé à me dire. C'est bizarre, avant les saisons commençaient, on avait de la super neige dès le mois de décembre et puis jusqu'à la fin du mois d'avril. Et puis la saison d'après, ça venait un peu plus tard, où il y avait des cycles de pluie ou de réchauffement en plein cœur de l'hiver qui étaient un peu bizarres. Il y avait des arrivées un peu plus massives de pollution sur les plages. Il y avait, et donc c'est juste en étant au cœur du milieu, en observant, qu'on s'est rendu compte que. Qu'il y avait un dérèglement qui était en train de s'opérer. Et c'est en observant tout ça et en ayant la chance de vivre, comme je disais, entre la montagne et l'océan, que l'engagement s'est créé et qu'avec mon père, avec d'autres amis, avec ma mère aussi, enfin la famille, on a commencé à réfléchir à créer une association qui s'est appelée d'abord du Flocon à la Vague et qui est devenue la Water Family quelques années après, quoi. Donc c'est un joli parcours. ma place au cœur de la Water Family, elle est depuis quasiment le premier, depuis le premier jour, depuis qu'on a lancé l'association du Flocon à la Vague, qui avait pour but d'organiser une odyssée du Flocon à la Vague, à la base, qui était une odyssée sportive et éducative sur le cycle de l'eau, en utilisant l'eau comme moyen de... de à la fois de transport et de fun, de rigolade, parce qu'on s'est bien marré pendant ces odyssées, au-delà de la sensibilisation aussi. Mais c'était le but, c'était toujours de faire ça, de faire de la sensibilisation en rigolant, en continuant à transmettre des valeurs de un peu de dépassement de soi, de rêve, de faire rêver. Et donc, cette odyssée du flocon à la vague partait du sommet du pic du Midi de Bigorre, qui est une des sources du fleuve de l'Adour, et puis qui ensuite suivait l'Adour jusqu'à son embouchure à Anglet. Et donc, il y avait du ski, du snowboard, des sports d'eau vive avec de l'hydrospeed, du canyoning, du kayak, du rafting, du paddle, du surf. Donc ça, c'était pour la partie vraiment sportive. Et puis, dès la première année, en fait, il y a eu une volonté de... On s'est rendu compte que les enfants de la côte, donc soit de Biarritz, enfin en tout cas du bassin de l'embouchure de l'Adour, n'avaient pas forcément conscience que l'eau qui arrivait chez eux venait des montagnes et inversement. Les enfants des écoles de la montagne n'avaient pas forcément conscience de savoir où l'eau qui passait devant chez eux dans l'Adour, où elle se finissait et les enjeux qui étaient liés. Donc, au début, c'était des enjeux qui étaient très liés, enfin, c'est toujours le cas, hein, mais liés à de la pollution. Au début, c'était un peu basique, c'était sur de la macro-pollution qui était observable de façon très concrète. C'est-à-dire que quand tu vois un ruisseau de montagne, a priori, il est encore très vierge de toute pollution visible, de macro-pollution. Puis, au fur et à mesure que le ruisseau il grandit et qu'il traverse des villages, des villes, de l'agriculture, de l'industrie, il se charge de pollution et puis il arrive dans l'océan beaucoup plus pollué. Et que voilà, donc de faire rencontrer ces enfants-là et de leur faire comprendre que ce qui se passe à un endroit a un impact plus bas ou plus haut et que tout ça c'est un cycle, ça a permis d'éveiller des consciences. Et quand c'était fait en plus, parce qu'à chaque fois c'était des grands champions qui venaient, qui faisaient des quiz avec eux, qui posaient des questions et tout, direct les gamins ils sont fans. Et quand tu transmets, quand c'est un champion du monde de foot comme Vicente Lizarazu qui est ultra connu, qui leur transmet ses messages, évidemment les gamins ils rentrent le soir à la maison, ils sont à bloc, ils mettent la misère à leurs parents sur tout ce qu'ils ont appris et tout. Donc voilà, on a vu que la formule était la bonne, donc ça a continué plusieurs années d'événements. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que l'événement, c'était bien, mais qu'il fallait peut-être aller un peu plus loin dans le message, dans la connaissance, dans la compréhension des milieux, tout ça. Donc, de s'appuyer sur peut-être plus de scientifiques, plus de gens qui étaient experts vraiment de l'environnement. Et donc, c'est là que c'est passé du flocon à la vague à la Water Family. C'était aussi une volonté de rassembler un peu toutes les belles pratiques autour de l'eau et pas seulement du flocon à la vague. Ça parle assez bien sur le cycle de l'eau, mais Water Family, ça permet d'avoir aussi un spectre d'action qui est plus large. Et puis après, l'association a grandi, il y a plein de gens avec une volonté incroyable et des compétences incroyables qui ont rejoint l'asso. Et puis aujourd'hui, c'est une asso qui fait plaisir à voir parce que ça fait plein de choses. Donc quand on voit c'était la première édition du Flocon à la vague, c'était en 2009, il me semble. Donc ça fait même pas 15 ans. Et donc c'est à la fois peu et beaucoup. Mais c'est trop cool parce qu'en tout cas, on n'avait pas cette. Sur les premières éditions, et quand on avait un peu lancé le truc, il n'y avait pas cette. On ne savait pas où ça allait. Voilà, c'était juste un engagement, une volonté personnelle de mon père, de Renaud. Il y avait Arnaud aussi, qui a été président de l'asso et bon, qui ne l'est plus. Mais ouais, c'est que des gens qui étaient passionnés, convaincus et qui continuent à l'être et qui ont réussi à embarquer plein de gens dans leur sillage. Ouais, je pense que l'engagement, en fait, il se résume à ça. Ça doit partir d'un engagement personnel, d'une volonté, d'un. Ça doit être authentique aussi, on doit se sentir complètement impliqué et il faut que ça vienne des tripes. Et puis quand c'est construit sur des bonnes bases comme ça, derrière, bah, ça a beau prendre des chemins différents, rebondir sur un engagement un peu différent, et tout, mais la base est là, et puis on voit que la base n'était pas trop mauvaise, quoi, parce que ça continue. Enfin, l'aventure qui m'a le plus marqué, c'est difficile à dire parce que j'ai la chance d'avoir vécu quand même pas mal d'aventures et j'espère en vivre encore pas mal. Voilà, bon, j'en ai une en ce moment qui me marque pas mal, c'est que je suis devenu papa il y a 4 mois et demi et que, et que bah, justement la volonté de transmettre, de faire, voilà, de vivre de façon à la fois. Bah, pas seulement pour l'instant présent, mais pour les générations futures, c'est clair que même si j'avais cette sensibilité-là, bah là, elle est carrément décuplée. Et la volonté de transmettre plein de choses à mon fils, bah, ouais, c'est ce qui m'anime et ce qui va m'animer, je pense, au maximum ces prochaines années. Et de le faire de façon raisonnable, responsable, peut-être enfin, même plus sobre qu'on a pu le faire il y a 20 ans. C'est sûr que nous, on avait, enfin voilà, ces questions-là, elles se posaient moins, donc on vivait sans arrière-pensée. Et aujourd'hui, il faut le faire avec beaucoup plus de sobriété entre guillemets, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un retour en arrière non plus, quoi, du tout. Je le vois pas du tout comme ça. Au contraire, ça permet d'avoir plus de connaissances, plus de mieux comprendre le monde qui nous entoure, et donc c'est positif. Mais je dirais que dans les voyages qui m'ont vraiment beaucoup marqué, ben, j'ai été au Groenland quand j'avais 10 ans. Donc ça, clairement, c'était pour faire un film de snowboard, et sur la côte est du Groenland, dans un petit village qui s'appelle Amasalik. Qui est bah, super sauvage. La côte est, elle est beaucoup moins développée que la côte ouest, parce que la banquise, en fait, c'est à cause ou grâce au courant marin, et notamment Gulf Stream, au courant nord arctique, qui fait que la banquise est beaucoup plus présente. Donc, l'accès à ces villages-là est beaucoup plus difficile. Donc, c'est pour ça que c'est plus sauvage. Mais quand tu vis une aventure comme ça, que tu passes 3 semaines au Groenland dans un environnement à la fois sauvage, dans une culture qui est complètement différente de la tienne, à devoir faire attention aux ours quand tu pars faire du snowboard, quand tu partages des moments incroyables avec des Inuits qui ont à peu près le même âge que toi, sans avoir forcément la même culture, sans avoir la même langue et tout, mais que. En fait, le langage des enfants, il est universel, quoi. Et c'est pour ça aussi que la Water Family est aussi a autant d'impact, c'est que voilà, le travail avec les enfants, il est génial parce que ouais, comme je disais, le langage des enfants, il est universel. Il n'y a pas besoin de se comprendre par des mots qu'on peut interagir, quoi, par des regards, par des sourires, par des jeux, par des choses très basiques. Et que ça m'avait vraiment profondément marqué. Et je pense que c'est ce qui a vraiment c'est à la fois ce qui m'a donné envie de devenir snowboarder pro, parce que je me suis dit, bah, si grâce au snowboard j'arrive à vivre des voyages comme ça, vivre des aventures comme ça, bah, c'est ce que j'ai envie de faire toute ma vie. Et je pense, avec le recul, c'est ce qui a aussi contribué à ma sensibilité à la nature, quoi, à l'environnement, et en fait, j'ai été tellement marqué par la beauté de ce qui m'entourait là-bas, de ces montagnes qui se jetaient dans les fjords, des glaciers, des icebergs. Enfin, voilà, c'était complètement dingue ce que je vivais, ce que je voyais. Donc, je pense que j'ai été touché, marqué, sensibilisé par la beauté de ça, et qu'en fait, je sais que mon engagement aujourd'hui, il se traduit beaucoup par ça, c'est que j'ai envie de beaucoup partager sur la beauté de ces éléments naturels, de ces environnements préservés et à préserver. Donc voilà. Et c'est aussi le Groenland, c'est aussi le sujet de mon prochain gros projet, où je souhaite retourner là-bas l'année prochaine pour retourner dans le village, essayer de retrouver les enfants avec qui j'avais pu jouer, qui ont eux aussi grandi, et de comprendre ce qu'ils sont devenus, quels sont leurs enjeux actuels dans un Groenland qui est au cœur d'enjeux environnementaux, économiques, sociaux, Enfin voilà, il y a plein, voilà, ils sont malgré eux, ils sont au cœur de quelque chose qui est beaucoup plus gros que leur petit village. Donc essayer de comprendre un peu ce qui se passe, voir les enfin ouais, quelle est leur vision là-dessus, et essayer de retrouver parce que moi j'ai quitté le Groenland quand j'avais 10 ans, enfin j'ai fait ce voyage, donc je suis parti de là-bas avec un idéal, avec une vision peut-être un peu idéaliste de ce que c'est. Aujourd'hui, 30 ans après, je pense que ça a beaucoup changé. Et donc d'y retourner avec mon regard d'adulte qui a évolué, qui est plus engagé, qui comprend peut-être un peu mieux le monde aussi. Mais bah voilà, ça va constituer une aventure qui va être assez folle, je pense. Si, ouais, ce choc que je vais peut-être voir au moment où je vais retourner là-bas, c'est ça, mais c'est l'enjeu, c'est de se dire, comme je te disais, je suis parti avec une vision un petit peu idéaliste. En tout cas, enfin non, pas idéaliste, une vision juste enfantine, quoi. Et le regard, garder ce regard d'enfant, je pense qu'il est super important parce que il nous offre un regard sur le monde qui est beaucoup plus naïf, c'est pas forcément le mot, mais qui est peut-être beaucoup plus simple parce qu'on n'est pas encore pollué, entre guillemets, des enjeux d'adultes, quoi. Et là, je vais être un peu confronté aux deux. Parce que moi, j'ai continué depuis 30, depuis, voilà, ça fait, ouais, 25 ans. Je continue à me construire à travers ces souvenirs. Et là, je vais en créer des nouveaux. Certainement qu'il va y avoir un moment dans le voyage où il va y avoir une phase de déconstruction. Parce que cet idéal-là, ces souvenirs, ils vont peut-être être mis un petit peu à mal au début, et puis ensuite on va s'attacher d'en créer de nouveaux et de faire de nouvelles rencontres et de repartir avec de nouveaux souvenirs positifs. C'est ça tout l'enjeu. Je ne sais pas encore, ce sera a priori au printemps, donc entre mars et avril. J'aimerais pour pouvoir avoir du temps à passer dans le village, pouvoir vraiment passer du temps avec les locaux pour voir, parce que voilà, c'est un peuple qui est forcément, tu vois, t'arrives pas. L'idée, c'est de faire un film documentaire là-dessus. Donc, l'idée, c'est pas forcément d'arriver et leur mettre une caméra devant le nez. Et ah, tout un aspect. En fait, on avait été dans deux villages et j'aimerais retourner dans ces deux villages, mais arriver à Massali, qui est le plus grand village, et l'autre, c'est un autre village, et peut-être traverser d'un village à l'autre. Bon, c'est des grosses, enfin, c'est une grosse expé quand même, soit y aller en traîneau avec des chiens, soit carrément juste avec des skis, enfin, ou mon snowboard et Poulka derrière moi pour retourner dans l'autre petit village aussi. Donc ouais, donc l'idée, c'est de partir minimum un mois, peut-être un peu plus. Donc voir un peu avec la famille comment on peut faire. Mais ouais, ça sera entre le mois d'avril, entre le mois de mars et le mois d'avril, je pense. C'est la meilleure saison pour y aller. J'aimerais aussi voir un peu, y être un peu en arrière-saison, parce que c'est qu'en plein hiver, il y a encore beaucoup de neige, et encore les glaciers sont encore assez bien recouverts, et donc on ne se rend pas compte de l'impact que le réchauffement climatique peut avoir là-bas. Donc j'aimerais y être un peu au printemps aussi, de voir comment ça se traduit, si les températures augmente de façon assez impressionnante aussi. Il commence à y avoir ce qu'on appelle les bédières, qui sont des rivières de fonte dans les glaciers, qui sont assez impressionnantes. Et donc voilà, pouvoir observer un peu tout ça. Ouais. Non, on va partir à plusieurs. L'idée, c'est pas de faire une grosse équipe, parce que quand on part dans les choses comme ça, et puis surtout si on veut avoir la possibilité d'être bien intégré dans le village et dans les familles et tout, il faut pas qu'on soit trop nombreux. Et puis après, c'est aussi des questions de budget, hein. Plus on prend de monde, plus ça coûte cher. Mais non, je construis le projet avec un pote qui s'appelle Walid Berissoul, qui est réalisateur et grand reporter. Donc qui est plutôt, lui, pas du tout dans la glisse, même si c'est un bon surfeur, il est plutôt il fait voilà, il est plutôt dans la géopolitique, des trucs assez engagés. Il a fait des films sur le Parti communiste chinois, sur Boris Johnson. Là, il est en Moldavie, sur des trucs, enfin, beaucoup. Donc voilà, donc c'est un profil qui est intéressant, je trouve, parce qu'il a un côté voilà, d'investigation. C'est un journaliste d'investigation, alors que moi, c'est pas moi. Voilà, je suis curieux, j'ai une certaine forme. ouais, d'humanisme peut-être, voilà, où ça m'intéresse en tout cas là-bas. J'ai envie de connaître l'histoire de ces gens que j'avais rencontrés, de ce village que j'ai rencontré il y a un moment. Mais voilà, je ne suis pas de formation, voilà, je suis sportif, enfin snowboarder et surfeur de formation, quoi. Donc, même si j'ai une certaine curiosité que j'essaie de continuer à construire et à faire grandir, c'est pas mon métier, donc voilà. Et puis après, peut-être un caméraman ou peut-être deux à voir, peut-être pas sur la totalité du séjour, mais je pense qu'on serait, ouais, si on est quatre, je pense que ce serait une bonne équipe, ouais. Bah, c'est clair que le métier de, enfin, le métier entre guillemets, parce que c'est la chance d'avoir un métier passion, mais ça reste un métier parce que c'est ce que je fais au quotidien. Mais mon métier de snowboarder, de surfeur et tout ça, bah, il a changé parce que il y a des choses que je faisais il y a 10, 15, 20 ans que je fais plus aujourd'hui, clairement. Déjà, au niveau des voyages, c'est vrai qu'il y a tout un idéal, une notion de rêve à travers ces sports-là, à travers les sports outdoor, qui est basée sur la notion de voyage. C'est cool d'aller surfer les plus belles vagues du monde en Indonésie, d'aller découvrir la montagne, une montagne au Japon, d'aller rider en Alaska. Enfin, voilà, et tout ça, ben, ça fait partie. Où ça faisait partie en tout cas de l'ADN des sports outdoor et des sports de nature, ce qui est un peu paradoxal parce que d'un côté on dit ben voilà, on veut vous montrer que cette nature est ultra riche, ultra inspirante et que on se doit de la protéger et tout, mais on va voyager, on va prendre des avions et tout pour y aller, donc c'est un peu un contresens. Et en même temps, bah, il faut que cette part de rêve, elle continue à exister. Parce que sinon, on revient à l'âge de pierre et puis on s'enferme tous dans des grottes. Et si on veut vraiment préserver le vivant et revenir, enfin ouais, et déconstruire ce qui a été fait, bah, c'est par là que ça passe. Hein. Il faut être. Je pense que certains experts le disent, après, est-ce que c'est viable ou pas, mais il faut être assez. Enfin, il y a une partie, en tout cas, qui dit qu'il faut être radical. Moi, j'ai une vision un peu plus mesurée par rapport à ça. Déjà, je suis personne pour donner des leçons. Donc, il faut, on doit, même si c'est dans notre langage et j'ai dû l'utiliser sans faire exprès. Mais pour moi, j'essaie de le bannir complètement parce que. Parce que c'est facile aujourd'hui pour moi de dire que je ne vais plus aller faire de l'hélico en Alaska ou je ne vais plus prendre l'avion 10 fois par an parce que malheureusement, je l'ai fait. Quand j'étais sur le tour mondial pour faire des compétitions, bah, on avait une compétition au Japon. Le week-end d'après, on avait une compétition aux États-Unis. Le week-end d'après, en Europe. Donc ouais, c'est pour ça que même par rapport à mon engagement, des fois, je me sens pas légitime. Donc, je pense que je pourrais en faire plus, ou en tout cas, mais ouais, cette légitimité, enfin, ce syndrome un peu de l'imposteur, il est super présent parce que justement, je sais que, mais je sais que je n'ai pas été et je ne suis toujours pas totalement exemplaire. Et en même temps, enfin, je connais assez peu de gens, il y en a hein, qui doivent l'être, mais qui, ouais, à partir du moment où on vit, où on est, on devient consommateur de ressources, quoi. On respire de l'oxygène, on rejette du dioxyde de carbone, c'est comme ça, quoi. Après, c'est juste qu'avant, il y avait beaucoup plus de forêts qui permettaient d'équilibrer tout ça, que les océans n'étaient pas saturés et captaient beaucoup plus de CO2 et qui permettaient de pas déséquilibrer tout ça. Et le fait que. Bah, on va pas refaire l'histoire, mais l'industrialisation, le fait qu'on soit de plus de 8 milliards maintenant, enfin, et les projections encore plus, hein, voilà, c'est tout un enjeu. Mais ouais, c'est que clairement, mon métier, je le fais différemment et on essaie de construire de nouveaux imaginaires, de nouvelles manières de rêver, de faire rêver. Et en fait, tout ça, c'est lié à ce qu'on connaît. Et c'est pour ça que les générations futures, c'est super important et que tout ce travail avec les enfants, il est méga important. C'est que nous, on a, enfin, moi, ma génération, quand je regardais les plus grands snowboarders, les plus grands surfeurs, eh ben, voilà, c'était ça, c'était de découvrir. Mais il y avait cette notion de découverte de nouvelles montagnes, de découverte de nouvelles vagues et où c'était cool de partir à l'autre bout du monde pour découvrir ça. Aujourd'hui, si on transmet aux jeunes surfeurs, snowboarders, marins, grimpeurs, enfin tout ce qu'on veut, si on leur dit ben non, si on les fait rêver différemment, si on les fait rêver avec des aventures qui sont soit un peu plus proches de chez nous, soit qu'on les construit de façon beaucoup plus raisonnée, avec des messages qui sont plus profonds et pas juste d'aller partir 2 semaines parce que il y a un bon swell à l'autre bout du monde et waouh, je veux y aller, je vais me faire 10 jours de surf et puis je rentre. Si on les fait rêver avec des valeurs différentes, je pense que bah, voilà, cette notion de rêve, elle va continuer à exister et à leur tour, ils auront envie de rêver, de faire rêver avec des choses plus raisonnables. Donc, mais ouais, après, c'est sûr que. Tu vois, un snowboarder qui aurait la vingtaine aujourd'hui, à qui on propose un trip en Alaska pour aller faire de l'hélico, qui je pourrais être pour lui dire bah, non, le fais pas, c'est de la merde. Alors je vais dire oui, bah, enfin, voilà, aujourd'hui on sait que les impacts que ça a, donc voilà, tu le fais en âme et conscience, et puis voilà, mais vu que. Enfin, pour moi, c'est facile de le dire parce que je l'ai fait, quoi. Et il y a pas mal de sportifs qui s'engagent, enfin voilà, qui changent leur manière de vivre leur sport. Et ça, c'est cool. Et c'est pas seulement cool, c'est nécessaire, en fait. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, on vit tous avec nos propres contradictions, avec nos propres. Et voilà, avec notre conscience. D'un côté, et puis ouais, avec nos tiraillements, parce que tout ça c'est un tiraillement, c'est parce que ben, on est aussi dans une société qui est où c'est cool. Enfin voilà, il faut donner envie, il y a un côté qui est très consommateur, mais même consommateur consommateur de voyage, ça fait rêver, c'est cool, mais ouais, il y a un tiraillement, et ce tiraillement il est. En fait, je pense qu'on ne peut pas, on peut pas se l'enlever, en fait. Il est en nous et il faut apprendre à vivre avec. De se dire, ben, ouais, là, je rêve cette année d'aller en Indonésie surfer. Et ben, voilà, je ne vais pas le faire parce que pour l'instant, comme tu dis, je vais essayer de construire. Enfin, si je fais ça, je vais essayer de construire un. Plutôt que de faire 2 semaines en Indonésie, après de partir un coup au Portugal d'un coup d'avion parce qu'il y a un bon swell et qu'il fait mauvais à la maison et que j'ai envie d'aller voir le soleil, et puis après enchaîner sur le Maroc et truc, ben non, je vais peut-être aller qu'une fois au Pérou, mais je vais partir pendant 2 mois, je vais essayer de me mettre au service de la communauté là-bas ou de créer quelque chose, créer, comme tu dis, créer de la valeur à ce voyage-là, à ce voyage. Et d'en rapporter quelque chose à la fois pour moi et puis à la fois pour les autres, et de se sentir investi et un petit peu utile à la communauté. Après, c'est sûr qu'on a tous envie d'avoir un engagement et de se sentir utile. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois super beau parce que c'est un super moteur pour avancer. Mais c'est aussi, je trouve que c'est aussi quelque chose qui met une certaine pression de se dire, mais en fait, je ne peux plus vivre que pour moi, il faut aussi que je vive en réfléchissant aux autres et tout ça. Et à la fois, c'est super vertueux et c'est nécessaire, et à la fois, ça met la pression, quoi, parce qu'on se dit, ouais, tout ce que je fais bah, va avoir un impact ou doit avoir un impact à la fois positif ou alors un impact minimum sur l'empreinte que je vais laisser sur la planète. Et un impact positif au niveau social ou au niveau humain ou tout ça. Donc, il y a une. Ouais, c'est. On est, enfin, en tout cas, nous, je pense qu'on est. Enfin, je sais pas, on n'est peut-être pas tout à fait la même génération. Il y a un demi-gap de génération, mais en tout cas, on est dans une période transitoire, quoi. Où on a grandi avec un imaginaire qui n'est plus celui qu'on doit essayer de construire. Je pense que la génération qui arrive après nous, celle qui est justement sensibilisée par la Water Family, actuellement, tu vois, j'étais encore dans une classe cette semaine de CM2, vers, ouais, c'est entre 8 et 12 ans. C'est des gamins qui sont géniaux, quoi, parce que ils commencent à avoir une forte sensibilité, ils sont ultra curieux. Et en fait, cette conscience que nous, on a développée tardivement, enfin, que moi, j'ai développée quand j'avais peut-être 25, 30 ans, eux, ils l'ont déjà à 8 ans, quoi. Et donc, bah, déjà, tout le travail de déconstruction que moi j'ai dû faire un peu pour me dire bah, ok, il faut plus que je pense de cette manière-là, il faut que je revoie un peu ma manière de faire. Eux, en fait, ils n'ont pas besoin de déconstruire, ils ont juste besoin de construire et de construire dans un monde et avec des outils et avec des habitudes qui sont beaucoup plus saines que les nôtres. Voilà, les conseils que je pourrais donner avec le recul que j'ai aujourd'hui. À la jeune génération, c'est que, enfin, je pense que c'est déjà, je pense qu'à très vite, ils auront plus de conseils à me donner à moi que l'inverse. Et c'est ce que je souhaite, parce que le but, c'est ça, hein, c'est que la nouvelle génération soit beaucoup plus évoluée que la nôtre. Hein. Normalement, dans l'évolution de l'humanité, c'est ça, hein. C'est qu'on est censé évoluer, c'est que chaque génération apprend de la précédente, soit de ses erreurs, soit de ses bénéfices. Donc je leur souhaite de nous transmettre des bonnes valeurs. Mais non, je dirais que par rapport à l'engagement et par rapport au sens qu'on veut donner à sa vie, ben, c'est d'être authentique par rapport à ça et de le faire avec le cœur, avec les tripes, en fait. C'est ce que on disait un petit peu au début, c'est que moi, j'ai eu la chance que mon engagement soit le prolongement d'une passion, d'une sensibilité qui a été construite par simplement des ressentis et que j'ai eu la chance de pouvoir construire ma vie autour des choses qui me faisaient profondément du bien sans que je mette facilement des mots dessus, mais c'était un ressenti. Et donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. On n'est pas toujours, encore une fois, j'ai beaucoup de chance et c'est pas donné à tout le monde, mais en tout cas, d'essayer de s'autoriser ça, de s'autoriser de se dire bah, voilà, je vais construire ma vie autour des choses qui me paraissent importantes pour moi, pour mon entourage, pour ma famille. Bah, je pense que c'est la meilleure manière de s'engager et d'être entier dans son engagement et dans sa manière de transmettre les choses. C'est clair que la chance d'avoir une passion, c'est peut-être la plus belle chance qu'on peut avoir, quoi. Parce qu'avoir une passion, que ce soit pour le sport, que ce soit pour transmettre des belles valeurs écologiques, que ce soit pour la musique, pour n'importe quoi, bah, ça donne un but et une ligne directrice dans la vie qu'on t'enlève pas, quoi, parce que c'est en toi. Donc ouais, soyez curieux. Aussi, ça c'est cool, parce que c'est en étant curieux qu'on va avoir envie de s'intéresser au monde qui nous entoure, à mieux le comprendre. Ouais, c'est peut-être ça le message et le conseil que j'ai envie de leur donner, c'est soyez curieux de tout, ne vous autorisez aucune limite quand vous êtes jeune, au contraire, expérimentez plein de choses, et puis à travers cette curiosité, vous trouverez fatalement une passion et quelque chose qui va vous animer toute votre vie.
C'était Mathieu Crépel dans ce podcast produit par la Water Family, association à l'éducation à l'écologie depuis 2008. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le repartager autour de vous et sur vos plateformes d'écoute. À bientôt!